Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de la miséricorde, ce dimanche de la miséricorde, c'est d'argent dont j'aimerais vous parler. Vous trouvez ça un petit peu curieux, il y a d'autres sujets à aborder, certainement les confrères prêtres ont eu d'autres sujets concernant ce dimanche, mais c'est la première lecture qui m'interpelle et qui me fait dire qu'il y a peut-être à se rappeler d'un certain nombre de choses. La première lecture, vous vous en souvenez, hein, les biens appartenaient, aucun ne pouvait dire que ces biens lui appartenaient en propre, et tout était en commun, hein, et on partageait tout, et personne n'était dans l'indigence, hein, et tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et apportaient le montant de la vente aux pieds des apôtres. La vision de chrétienne concernant la possession des biens est assez intelligente et assez, j'allais dire, originale. Alors que le communisme parle des biens en disant « c'est à tous et c'est pour tous », alors que le capitalisme dit « c'est à moi et c'est pour moi », la vision chrétienne dit « c'est à moi », il y a la reconnaissance de la propriété privée, mais c'est pour tous. C'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens, qui est un des principes fondateurs de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire comment vivre à partir de la résurrection mon rapport aux biens matériels et aux biens aussi immatériels, comme par exemple la connaissance. Et en préparant cette homilie, justement, j'ai vu dans le catéchisme de l'Église catholique, la propriété d'un bien de son détenteur fait de son détenteur un administrateur de la providence pour le faire fructifier et en communier les bienfaits à ceux qui en ont besoin, d'abord à ses proches. Voilà, la propriété d'un bien, c'est fait de nous des administrateurs de la providence. Et on voit bien dans le livre de la Genèse, où il a été remis à l'humanité la terre, mais ce n'est pas comme propriétaire, c'est comme gérant, j'allais dire. Nous avons à rendre compte des biens qui nous sont donnés. À tel point, c'est vrai, c'est que quelqu'un qui, par exemple, serait dans le besoin, des besoins vitaux, comme le fait de manger, bon, et irait prendre chez d'autres, voler la nourriture sans permission chez d'autres, au regard de la loi, il est punissable, mais au regard de l'Église, il n'a pas à s'en confesser. Il n'a pas à s'en confesser parce que, précisément, c'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens, qu'aucune personne, aucune famille, aucune communauté ne peut être privée, sans faute de sa part, du droit de posséder. Voilà, de posséder pour les besoins vitaux de la personne humaine, etc. C'est-à-dire que, pour nous, ça demande aussi un rapport au bien matériel, mais aussi immatériel. Immatériel comme, par exemple, la foi. La foi, c'est Jean-Paul II qui dit dans la lettre pour le nouveau millénaire, il dit « La première application du principe de destination universelle des biens consiste dans la mission et l'évangélisation, ainsi que dans la diffusion de la culture, parce que ce sont les biens les plus précieux qui permettent à ceux qui y accèdent de rendre leur vie féconde. » Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Quel est notre rapport tant au bien matériel qu'immatériel? Est-ce que la résurrection, comme c'est le cas dans les Actes des Apôtres au tout début, change quelque chose, fait que on a une vision des biens comme gestionnaire. On aura à rendre compte, par exemple, et c'est tout le but de l'encyclique Laudato Si du pape François, on aura à rendre compte de la manière dont on utilise la terre. Et on aura à rendre compte aussi de la manière dont on se préoccupe, puisque destination universelle des biens va aussi avec ce principe qu'on est un des principes fondateurs de la doctrine sociale de l'Église, qui est le principe de solidarité, avec aussi le bien commun, la subsidiarité, la participation. Ce sont des principes fondateurs. C'est-à-dire que toute personne qui est disciple de Jésus, mais j'allais dire toute personne, tout homme et toute femme de bonne volonté, eh bien, doit appliquer pour sa propre vie à la fois cette recherche du bien commun. Ce principe de subsidiarité, qu'est-ce que c'est le principe de subsidiarité? C'est un mot un peu compliqué comme ça, c'est-à-dire que l'échelon du dessus ne fait pas à la place de l'échelon d'en dessous. les parents, si les enfants peuvent faire, par exemple, petit, un certain nombre de services, ce n'est pas à l'échelon du dessus qui sont les parents de les faire. Mais à un moment donné, les parents eux-mêmes vieillissant, ce sont les enfants qui assureront les services pour les parents parce qu'eux-mêmes en sont rendus incapables. Mais la subsidiarité, c'est ça. C'est chaque échelon fait le maximum qu'il peut. Ce qui fait que la personne, même si elle est en fragilité, si elle est plus pauvre, etc., ben du coup, tout ce qu'elle peut faire, eh bien, laissons-lui faire. Hein, et souvent, des personnes âgées, etc., je me souviens un jour en communauté, un père âgé, etc., mais qui voulait essuyer la vaisselle. Non, mais laissez père, laissez aller vous reposer. Non. S'il peut essuyer la vaisselle, qu'il essuie la vaisselle. Parce que c'est aussi respecter, il a un peu moins le sentiment d'être une charge pour la communauté. Et puis bon, après, malheureusement, il n'a pas pu, etc. Mais on voit bien comment ces principes dans la destination universelle des biens est quelque chose de très important. Ça contribue à la dignité de la personne humaine. Hein. Et donc, du coup, il y a le principe de subsidiarité, par exemple, qui est inscrit dans la Constitution européenne. Hein. L'Europe n'a pas à prendre la place des nations et les nations des régions, etc. etc. Bon, on peut l'appliquer à des tas de choses. Mais concernant l'argent, tout ça, par exemple, en méditant là-dessus, je me dis, dans la répartition des bénéfices, si d'aventure vous êtes actionnaire ou propriétaire d'une entreprise, etc., je trouve qu'une règle qui serait intéressante, c'est la règle des trois tiers. Qu'une entreprise fasse des bénéfices, c'est pas un sujet, c'est comme si on disait, est-ce qu'on a besoin d'air pour respirer ? C'est même pas une option. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit faire des bénéfices. La question, c'est de la répartition. Et la règle des trois tiers, qui pourrait être une application de cette destination universelle des biens, c'est un tiers pour le capital, les détenteurs de capital, un tiers pour les salariés, sous forme de participation, de primes, etc., un tiers pour le futur de l'entreprise, l'investissement, la recherche et le développement. Et je trouve que cette répartition des trois tiers permet justement d'honorer ce principe. Cet argent-là, il appartient, il est le fruit du capital, mais il est aussi le fruit du travail. Et ensuite, on vise aussi l'avenir. Et je trouve que le principe de destination universelle, il est très, très puissant, parce que ça fait qu'on ne voit pas ce qu'on possède uniquement en fonction de soi-même, mais on le considère aussi en fonction de soi, des plus proches, comme ça a été dit, mais aussi on le considère en fonction d'autres. Parce que je ne peux pas dire « je » sans dire « tu », je ne peux pas dire « tu » sans dire « nous ». C'est ça le principe de destination universelle des biens. C'est-à-dire qu'il y a... Et si un jour les autres sont privés des biens fondamentaux, ben ils viendront chez toi dans ton frigidaire prendre ce qui leur manque. Et puis en plus, voilà, donc c'est quelque part, c'est légitime, nous ferions exactement pareil. Alors que, sans faute de leur part, c'est dit très bien. Alors qu'ils auraient voulu travailler, on ne leur a pas donné de travail, ils auraient voulu collaborer à la communauté humaine dans laquelle ils sont, mais personne ne les a accueillis. Ben, il faut bien, les besoins fondamentaux, il faut bien les honorer. Donc je trouve ça intéressant de voir qu'à travers la première lecture, et c'est rare que l'on parle d'argent ou de gestion des biens matériels dans les homélies, on n'en parle pas assez à mon avis, si ce n'est pour demander de donner plus à la quête, mais bon, c'est pas, il n'y a pas de message subliminal, vous n'en faites pas. Et donc du coup, mais de se dire soi-même, en quoi la résurrection du Christ, parce que c'est ça dont il s'agit, en quoi la résurrection de Jésus vient transformer mon rapport au bien, vient me faire sentir communauté, hein, vient faire que j'ai une responsabilité envers l'autre. Et donc du coup, une responsabilité, oui, la propriété privée est reconnue par l'Église, mais ce n'est pas un absolu. La propriété privée n'est pas un absolu. Et donc du coup, est-ce que de mon côté, à ma part dans l'Église, à ma part dans la société, à ma place plus exactement, est-ce que je mets en application ça ? Est-ce que, comment je peux, en prudence, et c'est chacun qui peut le voir, je peux mettre en application de quelque part que ce que j'ai, les biens immatériels par exemple, savoir lire et écrire, c'est un bien immatériel, mais combien sont analphabètes par exemple ? Et est-ce que, je pense à toutes les personnes étrangères qui viennent, et pas qu'étrangères, des Gaulois bien nés en Gaule et qui ne savent ni lire ni écrire, et est-ce que j'ai conscience que ce savoir, et au fond, le fait de transmettre un savoir, ça le multiplie, ça ne me l'enlève pas. Hein? Et de même aussi que transmettre un bien, même si temporairement je m'en dépossède, mais ça le multiplie et ça rend fécond ce que j'ai acquis de par mon travail, etc., comme bien matériel. Oui, donc c'est de penser nous. C'est ça, je pense, la destination universelle des biens. Et la résurrection nous fait penser en termes de nous. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est de ce passage du je au nous, hein, en nous, et en nous comme communauté humaine. Comme communauté humaine. Et ça, c'est très, si on dit le Notre Père, comme on va le dire dans cette célébration, c'est bien que nous sommes liés par un nous commun et un destin commun. Et qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas regarder l'autre comme s'il n'était pas de notre humanité, hein, comme s'il n'avait pas les mêmes besoins que nous. Alors, je trouve ça intéressant de voir les apôtres qui reçoivent ces dons de la part des fidèles, les fidèles qui ont découvert Jésus et qui, alors de façon assez radicale, ils vendent tout, etc., parce que voilà, la multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme, et pour exprimer cette communion d'esprit, eh bien, ils ont voulu aussi une communion, hein, dans les biens matériels. Et c'est ce que vivent plutôt la vie religieuse, ça c'est plus applicable dans la vie religieuse, mais la vie religieuse vient de la résurrection, évidemment, hein, comme toute la vie chrétienne. Et donc du coup, c'est parce qu'on a le senti, on pense que ce que l'on a reçu est une responsabilité, qu'on va le partager, et que les vrais biens ne sont pas ici-bas, les vrais biens sont dans les royaumes des cieux, là où on est attendu. Mais on est attendu en fonction aussi de ce que l'on aura fait des biens terrestres. Donc c'est intéressant de voir que nos actions retentissent dans l'éternité. C'est ça la destination du bien. C'est à la fois très concret, je vous ai donné l'exemple de répartition de bénéfices pour une entreprise, mais en même temps très spirituel, c'est que de là je serai aussi jugé de voir qu'est-ce que j'ai fait des biens immatériels et immatériels que j'ai reçus, et spirituels, intellectuels que j'ai reçus, qu'est-ce que j'en ai fait ? Est-ce que je me suis senti convoqué par l'autre, convoqué par mon frère en humanité? Alors voilà, je pense que c'est bien que la liturgie nous offre cette possibilité de méditer sur le rapport au bien et de nous demander aussi qu'au fond, c'est une manière de miséricorde. Une miséricorde, c'est la fête de la miséricorde, avoir du cœur pour la misère, c'est ça la miséricorde, avoir du cœur pour la misère. Et ça rentre tout à fait dans la destination universelle des biens. J'ai du cœur pour la misère, parce que je vois que dans mon frère qui est dans le besoin, je vois un autre moi-même. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous ouvre le cœur, parce que parfois on est prompt à la prière, etc., mais de partager des biens, je pense, par exemple, intellectuels, parce que ça demande de se bouger, ça demande du temps, ça demande, etc., on est moins prompt. Ou des biens spirituels, transmettre la foi, par exemple, l'évangélisation, c'est la destination universelle des biens. Voilà, demandons à Jésus qu'on puisse avoir le cœur un peu plus large et qu'on puisse être vraiment ses témoins ici et maintenant dans le monde.